Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Clotilde Dussoulier, auteure, blogueur et hôte du podcast Change ma vie. Car oui, c'est réellement ce que fait Clotilde à travers ses épisodes de podcast et dans ses discussions où l'on démystifie complètement le développement personnel. Avec Clotilde, on parle de l'importance de comprendre le présent plutôt que le passé, comme il est généralement prôné, et d'arriver à réaliser que les circonstances sont neutres. Clotilde nous apprend dans cet épisode à ne plus avoir peur de nos émotions et surtout nous révèle comment les gérer. On parle aussi de comment réagir face aux événements de la vie et surtout de réussir à en prendre le contrôle pour réellement prendre le pouvoir de sa vie. J'aimerais aujourd'hui remercier Pauline Zave qui a laissé le commentaire suivant sur son application de podcast. Je ne suis pas du genre à prendre le temps de laisser un avis, mais là, j'étais obligée. Ton podcast est génial sur le fond comme sur la forme. Avant de l'écouter, je me disais « encore un énième podcast sur le développement personnel », or c'est tout différent. Les invités parlent de leurs expériences avant de parler de leurs leçons. Ils ont un réel recul sur l'échec qui fait plaisir à entendre. Merci pour tout, tu m'as réconciliée avec le mot « inspiration » et me donnes le sourire le soir dans le métro. Un grand merci à toi Pauline pour ce message qui vient aussi de me donner un immense sourire, et à vous tous qui prenez le temps d'écouter ce podcast chaque semaine et de partager vos retours sur les réseaux sociaux. Et sans plus attendre, je vous dis à tout de suite pour le tout nouvel épisode d'In Power. Ben bonjour Clotilde.
Bonjour.
Et bienvenue sur In Power. Je suis ravie de te recevoir, en plus chez toi à Montmartre, donc c'est super. Donc Clotilde, tu es auteur, blogueur et hôte du podcast Change ma vie. Mais c'est pas comme ça que tu as commencé ta carrière. J'avais envie qu'on parle un peu de ça. Parce qu'en fait, c'est marrant, je faisais des recherches de toi donc pour cet épisode et je suis tombée sur l'inévitable Wikipédia. Et j'ai vu une photo de toi dans l'université où moi j'étais l'an dernier, à Berkeley, en Californie.
D'accord.
Et j'ai vu que bon, toi tu étais pour la promotion de ton livre de cuisine et que donc tu étais avant ingénieur informatique. Est-ce que tu peux me dire un peu comment t'es passée de l'un à l'autre ?
Alors, j'ai fait des études d'informatique, effectivement. Moi, à la base, je voulais être actrice.
D'accord.
C'était ça mon rêve quand j'étais enfant puis adolescente.
Ouais.
Donc je faisais du théâtre à côté, enfin en même temps que mes études. Mes parents m'avaient encouragée à faire des études en même temps que je faisais du théâtre dans l'idée que, voilà, d'avoir quelque chose vers lequel me retourner si le théâtre ne fonctionnait pas. Et en fait, dans le courant de mes études, j'ai essayé de passer une audition pour le conservatoire du 18e, qui était un bon cours de théâtre, je ne sais pas si ça l'est toujours. Et en fait, cette expérience d'audition a été hyper pénible pour moi. C'est-à-dire que, en fait, d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais pas les épaules, en tout cas à cette époque-là, pour faire face à la compétition. J'avais toujours fait du théâtre dans des environnements qui étaient très privilégiés, où c'était des petits cours de théâtre,
des
comme ça. Et d'un coup, ouais, je me suis dit, non mais alors moi, ça, me battre, développer la carapace pour faire face à ça, ça, en fait, je me suis dit, je vais pas y arriver.
Ouais.
Et donc, comme je faisais aussi des études en même temps à Dauphine, et que c'était le début des années Internet, parce que moi, j'ai eu mon bac en 96, et donc du coup, en 96-97, on commençait tout juste à avoir accès à Internet en
c'est
France.
C'est vrai que là, c'était le...
Et en fait, moi, je voyais qu'il se passait un truc, enfin, que c'était genre génial, que ça allait changer le monde. Et comme je prenais des cours d'informatique dans ma formation, je me suis dit c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. J'étais aussi à l'époque avec mon copain de l'époque qui est devenu mon mari ensuite, qui lui-même était tombé dans la marmite de l'informatique quand il était petit. Mon père était très branché par ça et tout ça. Donc je me suis dit en fait j'ai envie de faire ça. Donc j'ai changé de filière d'études, j'ai fait de l'informatique. Et c'est devenu vraiment un truc que, enfin moi j'adorais ça. J'ai, à la fin de mes études, avec mon copain, donc Maxence, on est parti en Californie pour faire nos stages de fin d'études dans la Silicon Valley.
Ouais.
Et finalement, on y est resté. Donc, on y a vécu 2 ans. Et c'est là que j'ai commencé à cuisiner, en fait. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille dans laquelle ma mère cuisinait très bien, on mangeait très bien, mais moi, je cuisinais pas. Enfin, je m'intéressais pas à la nourriture spécialement. Mais en habitant à l'étranger, d'un coup, je me suis rendu compte que ça disait beaucoup de choses sur les gens. Et je me suis mise à cuisiner, en fait, un peu comme un loisir créatif, en réalité. Et donc, je cuisinais de plus en plus. Je pense que c'était aussi une façon d'incarner mon rapport à la nourriture qui n'a pas toujours été hyper simple. Et en fait, le fait de cuisiner, bah, ça permet de s'intéresser à la nourriture sans que les gens se disent « mais quand même, tu penses beaucoup à la nourriture
enfin, ». Ça justifie. C'est quelque chose que mon père me dit tout le temps.
Ouais, c'est vrai.
Mais maintenant, j'en fais une fierté. Je me dis « bah oui, je suis épicurienne, je n'ai pas à avoir honte ». Parce qu'on dit ça comme si on devait avoir honte d'aimer manger, tu
vois.
Oui,
c'est ça. C'est très paradoxal. Mais je pense que, enfin, je ne sais pas si on reviendra sur ces idées-là, mais... Je pense qu'il y a un truc autour de la nourriture, de comment on s'alimente dans la société, comment les femmes s'alimentent en particulier.
Notamment.
Où il y a quelque chose de pas forcément évident à négocier quand on est une jeune femme. Et qu'en tout cas, le fait de dire, bah, moi, je pense tout le temps à la bouffe, mais c'est parce que j'adore cuisiner. Il y avait un côté qui était...
Ouais, voilà, ça me comprend mieux.
Ça me plaisait. Et par ailleurs, donc c'était pas que ça, mais c'était aussi par ailleurs le... En fait, je trouve que la cuisine, il y a toujours des notions des petits bonheurs du quotidien, de la présence, du partage avec les autres, de la connexion. S'intéresser à ce que les gens ont mangé dans leur enfance, c'est une façon de découvrir leur vie. Dans des endroits, la nourriture, c'est une super façon de découvrir les lieux, les gens, les cultures, l'histoire, etc. Donc c'était vraiment voilà, quelque chose aussi de sensoriel qui me plaisait beaucoup. Et comme ça me plaisait de plus en plus, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'adore ça. Ça me permettait aussi d'écrire, parce que donc, j'ai créé un blog qui s'appelle Chocolate and Zucchini en 2003, autour de la nourriture. Moi, j'avais toujours voulu écrire, mais je n'avais jamais vraiment trouvé mon sujet, en fait. Et je me suis aperçue que quand j'essayais de partager par écrit ma passion pour la cuisine et tout ce que ça racontait, et ben qu'en fait, les histoires me venaient. Enfin, j'avais beaucoup de plaisir et beaucoup de facilité à écrire autour de ça, que les gens, ça leur plaisait. Enfin... J'ai trouvé en fait une façon de partager des choses qui me rendaient heureuse et de voir ensuite l'effet papillon de ces choses-là dans la vie d'autres personnes. Et c'est finalement une des choses qui m'anime le plus dans ma vie, c'est cette idée de pouvoir faire des expériences pour moi d'abord et de les partager avec d'autres d'une manière qui leur permet à eux de se les approprier, d'en voir les effets dans leur vie. Et moi, je vois l'effet que ça a sur la vie des gens, c'est gratifiant, il y a une connexion. Enfin, c'est un effet d'entraînement qui finalement est ce qui me plaît avec l'écriture culinaire et c'est ce qui me plaît avec le podcast Change ma vie aussi.
Ouais, bah, c'est aussi ce que j'ai remarqué dans ces deux activités que tu fais. C'est, j'ai l'impression qu'en fait, tu as un peu une capacité à savoir ce qui est parti pour marcher. Parce que le blog, comme tu dis, tu l'as lancé en 2003, c'est très très précurseur. Et le podcast, bah, tu l'as lancé en 2017, si je ne me trompe pas, à début 2017. C'est quand même précurseur aussi en France. Est-ce que tu sens ça aussi ou est-ce que tu... Je sais pas, est-ce que tu as un peu une méthode pour savoir...
Alors, j'ai pas de méthode. Je pense que dans les deux cas, ça s'explique beaucoup par le fait d'avoir un pied aux États-Unis parce que comme j'ai vécu là-bas, que j'ai toujours été très américanophile, culturellement, je suis très, très intéressée par ce qui se fait aux États-Unis. Par les choses qui me plaisent en tout cas des États-Unis et c'est vrai que aussi bien le blog que le podcast, moi je les ai créés en France en étant dans le mouvement précurseur, mais ça existait déjà aux États-Unis donc
en fait c'est regarder vers les États-Unis,
voilà,
quoi.
C'est ça, en l'occurrence, enfin pour ces deux choses là c'est le cas. Après moi j'ai toujours conduit ces choix de carrière et mes choix en général très à l'intuition. Donc en fait, je me pose pas vraiment la question de est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher. C'est juste, j'ai envie de le faire et je le fais, quoi.
Ouais.
Enfin, en réalité, c'est pas vraiment, ça se pose pas vraiment comme un choix. C'est-à-dire que
c'est une envie, en fait.
En fait, c'est cette impression que tout est possible à partir du moment où j'ai envie et je sais pas forcément comment on le fait, mais si j'ai envie de le faire, je le ferai, quoi.
D'accord. Bah, je pense que c'est la méthode sûrement qui marche le mieux au final. Enfin, tu le fais pour les bonnes raisons et du coup, bah, en fait, ça parle aux gens. Donc même si c'est pas un format hyper connu pour l'instant, ça connaît une vraie audience. Et en plus, notamment dans le podcast Change ma vie, tu apportes des outils très pratiques. Et tu parles d'un sujet donc, qui est le développement personnel et qui est très prôné et utilisé aux États-Unis. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il reste très mal vu en France. Tu vois, vraiment, j'emploie le terme mal vu parce qu'il y a un peu cette a priori, alors que les gens ne connaissent pas forcément ce que c'est. Et je me suis demandé si tu avais réfléchi un peu au pourquoi, à quel point, en fait, j'ai l'impression que la culture nous conditionne Et si pour toi, tu avais remarqué que c'était difficile de s'en défaire pour les Français ou pas, ou si c'est juste un manque de connaissances sur le sujet.
Par rapport au développement personnel.
Par rapport au développement personnel.
Alors, ouais. Moi, je comprends d'autant mieux la réticence des gens que pendant des années et des années, je regardais le rayon à la Fnac du développement personnel avec le dédain le plus complet. C'est-à-dire que.
Mais tu vois, c'est ça, on a un mépris non expliqué.
En fait, moi, je le percevais comme étant un peu une espèce de rustine. Des espèces de trucs,
une bonne parole,
un espèce de truc, ouais. des bouquins comme ça que les gens achètent pour se sentir mieux un quart d'heure pendant qu'ils le lisent ou penser qu'ils achètent enfin la solution qui va changer leur vie. Mais que finalement, je trouvais ça un peu triste. Moi, j'avais une culture très psy, c'est-à-dire que depuis toujours, j'étais très intéressée par les trucs d'inconscient, de subconscient. Je me souviens, je lisais des bouquins de Freud quand j'étais au lycée. Ouais. Ça m'intéressait beaucoup. Et donc moi, dans ma vie, quand j'ai eu des moments, quand j'ai traversé des périodes plus difficiles, mon réflexe, parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait autre chose à faire, c'était d'aller voir des psys. Et en fait, ça m'a apporté des choses... Mais c'était toujours une approche qui était très tournée vers le passé. C'était toujours, on va chercher
le
qu'est-ce
mal.
Qui s'est passé, qu'est-ce qui dans mon passé explique que je rencontre cette difficulté, qu'est-ce qui fait que je fais tout le temps la même chose, que je me retrouve tout le temps face à la même géométrie de situation. Mm-hmm. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, donc ça, je trouve ça très utile. C'est très utile de comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là, de bien comprendre les choses qu'on a eues, les choses qu'on n'a pas eues, les choses qu'on aurait voulu avoir, qu'on n'a pas eues, etc. Mais en fait, ce qui me manquait au bout d'un moment, c'était comment est-ce qu'on fait pour inventer la suite.
Ouais.
Et qu'en fait, donc moi, j'avais l'impression de hyper bien comprendre ce qui m'avait amené là. Moi, j'ai toujours été passionnée, effectivement, par essayer de comprendre ce qui motive les gens, ce qui se passe dans leur tête. J'ai toujours vachement observé les gens à essayer de comprendre tout ça. Et donc, j'avais cette observation-là envers moi-même aussi. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de raconter tout le temps la même chose et de me dire, est-ce que je suis condamnée à reproduire sans arrêt ce mécanisme que je connais certes très bien,
mais à la longue.
Et en fait, il se trouve que c'est juste arrivé à un moment où j'ai découvert des personnes, alors principalement américaines, qui justement proposaient des façons de voir les choses qui permettaient effectivement d'amorcer des changements. Et moi, ce qui me gêne dans certains... Alors, je connais absolument pas tout en développement personnel. Et d'ailleurs, j'essaye... de m'en tenir au... Enfin, j'essaye pas d'avoir une culture générale du développement personnel très large, parce que je veux pas diluer, en fait, le message que moi, je porte, qui sont les choses qui moi... Je cherche pas à avoir une approche critique du développement personnel, ce qui marche, ce qui marche pas, etc. Par contre, ce que je vois, c'est que pour moi, ce qui ne me parle absolument pas, c'est les titres qui sont du style... toutes les choses qui vous font souffrir, les personnes dans votre vie qui vous empêchent d'être heureux, des façons de mettre la personne dans un rôle de victime qui explique pendant 300 pages pourquoi est-ce que vous êtes malheureux et pourquoi est-ce que c'est pas de votre faute. Et je pense qu'il y a une place pour ça, mais moi personnellement je préfère largement qu'on me dise personne d'autre que toi ne peut te rendre malheureuse ou heureuse. Ouais. Et si tu as envie d'être heureuse plutôt que malheureuse, voilà ce que tu peux faire.
Ouais.
Et les autres, tu les laisses faire ce qu'ils font, être ce qu'ils sont, il n'y a pas de problème. Tout le monde est dans le même bateau. Et c'est juste toi, qu'est-ce qui t'est utile, toi, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, qu'est-ce que tu veux pour toi, et naviguer la vie comme ça, en fait.
Ouais. Mais donc, tu vois, pour en revenir au sujet de la culture, quand tu décris ça, je me dis, mais quels pourraient être un peu les doutes ou les a priori qu'on pourrait lui opposer? Et en fait, j'ai juste l'impression que c'est culturel et que c'est très difficile de sortir un peu de cette condition, tu vois, dans laquelle on a évolué, dans laquelle on a grandi. Et je pense que ça commence dès l'enfance, en fait, parce que plus j'y réfléchis, plus je me dis, dès qu'on est enfant, on est en France, on n'est pas encouragé, tu vois, à travailler sur soi, à réfléchir, aller voir un psy ou un coach. On est même perçu comme déviant, tu vois, un peu en France, quand on va voir un psychologue. Et je me suis dit, toi qui connais quand même maintenant beaucoup de choses sur le sujet, qu'est-ce que tu changerais peut-être si jamais tu devais implémenter au collège, même à l'école ou au lycée, pour rendre le life coaching, je trouve que ce terme est peut-être plus adapté que développement personnel, donc le life coaching plus friendly, plus accessible.
En fait, moi j'ai des enfants qui ont 3 ans et demi et 6 ans. Pour moi, ça démarre dans la famille de préférence. C'est juste d'avoir une meilleure compréhension des mécanismes émotionnels, en fait. De qu'est-ce que c'est une émotion, d'où vient une émotion, quand on ressent une émotion, qu'est-ce qu'on en fait. Est-ce qu'il y a Voilà, on peut y réagir, on peut y résister, et puis il y a la voix du milieu qui est juste accueillir l'émotion et se dire, bah oui, parfois je suis déçue, parfois je suis en colère, parfois je suis triste. Bah oui, ça fait partie de la vie, et en tant que parent, on peut aider les enfants à faire le tri là-dedans, c'est-à-dire à comprendre, quand tu te sens comme ça, quand t'es triste, c'est pas parce que ta copine, elle t'a dit ça, c'est parce que ta copine, elle t'a dit ça, et que toi, t'as eu une pensée qui te rend triste. Ta copine peut pas te rendre triste, et toi, tu peux pas rendre ta copine triste. Tout ça, c'est dans ton esprit que ça démarre, et il n'y a pas de problème. Il y a des fois, tu vas choisir des pensées qui vont te rendre triste. Mais si tu veux, quand on aura marre d'être triste, tu pourras choisir de te dire autre chose sur la situation qui fera que tu seras plus triste. Et si tu es triste, bah, c'est pas grave, tu vas te mettre avec moi. Puis voilà, je vais être triste que tu sois triste, mais moi, ça va parce que je suis pas triste. tu vois, c'est cette idée de se dire que les émotions... En fait, je pense que toute une partie de notre souffrance vient du fait qu'on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est un problème. Et que du coup, vite, il faut manger un gâteau, il faut boire un verre de whisky, il faut sortir acheter un sac, il faut s'engueuler avec quelqu'un. Non, c'est pas grave. Les émotions négatives, ça fait partie de la vie, c'est 50-50. Il y a 50% du temps, c'est génial, 50% du temps, c'est pas génial.
Voilà. C'est vrai, mais tu vois, on nous le dit tellement pas, en fait.
Bah non, ouais.
C'est dingue.
Mais tu sais la raison pourquoi. C'est parce qu'on vit dans une société de consommation dans laquelle on te dit, si tu es malheureuse, achète un sac. Si tu es malheureuse, achète une crème. Ouais. Si tu te sens pas bien dans ta peau, c'est parce qu'il faut que tu sois plus comme ci, que tu sois plus comme ça.
Tu penses
si
que
ça
c'est
va
vrai
pas dans ton couple, book un week-end.
Ouais, mais donc tu penses qu'il y a une centaine d'années, peut-être 200 ans, les gens ne ressentaient pas d'émotions négatives? Parce que si jamais on suit cette réflexion, ce serait la société de consommation qui amène les émotions
négatives. Non, non. La société de consommation n'amène pas les émotions négatives. Les émotions négatives, elles font partie de la condition humaine. C'est simplement que la société de consommation te dit, si tu as une émotion négative, c'est parce que tu n'as pas le bon sac. Ou qu'en tout cas, si tu n'as pas envie de ressentir cette émotion négative, achète un sac et ça ira mieux.
Donc, elle apporte des solutions factices, en fait.
Elle apporte des solutions factices et elle t'envoie le message que... si tu te sens pas bien, c'est parce que tu fais pas ce qu'il faut pour te sentir mieux. Et ce qu'il te faut, c'est cette crème, c'est ce sac.
Ouais. Donc en fait, c'est vrai, maintenant que tu le dis, je pense que le terme, c'est qu'elle nous culpabilise, cette société. Tu vois, elle nous donne l'impression que, en fait, ça tient qu'à nous de changer nos comportements par la consommation. Mais après, je pense quand même que certaines personnes ne vont pas forcément se réfugier dans la consommation, tu vois. Des personnes qui sont tristes, ils vont juste porter ça en eux-mêmes. Et bah tu vois, je sais que notamment dans mon contact, beaucoup de filles anorexiques, et elles, ben c'est au contraire, elles vont juste se tourner vers elles-mêmes, parfois même se faire du mal.
Ouais, tout à fait.
Tu vois ?
Non, mais je prenais l'exemple du sac pour la consommation. Mais
ouais.
Alors, je vais pas forcément rentrer sur le terrain de l'anorexie, parce que je pense que c'est aussi du domaine de professionnels de santé.
Oui,
donc,
tout à fait.
Je veux pas proposer d'outils qui seraient pas forcément appropriés, mais je pense tout simplement au recours à la nourriture de réconfort,
ouais,
qui est, sans que ce soit des troubles alimentaires à proprement parler, c'est juste cette idée que je me sens pas bien. Je sais pas ce que c'est, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui m'arrive, et donc je sais pas, on m'a pas appris quoi en faire. On m'a pas appris quoi en faire, je sais pas gérer, et donc je vais aller manger un gâteau, je vais aller manger des chips.
Ouais, parce que ça apporte un plaisir un peu
instantané. Parce que ça apporte un réconfort immédiat, et on comprend très bien. C'est-à-dire que si on pense que quand on ressent une émotion négative, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas, on va très vite chercher une solution. Alors que si on se dit, eh ben, quand je ressens ça, qu'est-ce que je ressens exactement? Qu'est-ce que c'est? Quelle couleur d'émotion c'est? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je me sens seule? Est-ce que je m'ennuie? Et pouvoir être juste comme ça, me dire, bah oui, je peux me sentir un peu seule, m'ennuyer un peu, être un peu déçue, être un peu désœuvrée, être un peu agitée. Voilà. Et je suis pas obligée de... Enfin, je veux dire, je peux être juste comme ça. Et c'est ça aussi qui favorise une meilleure connaissance de moi, une meilleure connexion à moi-même, qui fait que je me dis, bah, je peux ressentir cette émotion négative, j'y survis. Et donc, qu'est-ce que je peux aller chercher dans ma vie? Qu'est-ce que je peux créer? Vers quoi est-ce que je peux aller sans avoir peur d'être déçue, d'être rejetée, d'être humiliée, d'avoir honte, d'avoir l'impression d'échouer, de... Parce que c'est ça, finalement. En fait, c'est ça le problème. C'est que si on cherche à fuir des petites émotions négatives au quotidien, on s'empêche globalement d'aller au-devant de tout un tas d'expériences dont on a envie pour soi, mais on se dit, aïe, 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 il faut surtout pas que j'y aille, parce que qu'est-ce qui se passe si je rate?
C'est notamment le cas de la peur, je trouve. En tout cas, c'est ce qui va bloquer le plus, je pense, de gens, c'est ne pas faire quelque chose, ouais, par peur, mais t'as raison, en fait, du coup, la peur, ça rejoint d'autres émotions, par peur du jugement, par peur de l'humiliation,
oui,
par peur de l'échec.
Qui est, en gros, une peur d'émotions négatives. C'est-à-dire que, parce que la peur, il y a la peur... la peur du cerveau reptilien qui est la peur de se faire mal, la peur de mourir. Donc ça, enfin, je veux dire, c'est la peur du danger immédiat, du danger physique. Ça, c'est
qui est vraiment un mode physiologique,
voilà,
quoi.
C'est ça. Mais souvent, on confond cette peur-là qu'on veut garder, évidemment, parce que enfin, je veux dire, s'il nous arrive un truc, il faut fuir, il faut réagir.
Il faut l'écouter.
Avec la peur des émotions négatives. Mais les émotions négatives, il n'y a pas à en avoir peur, en fait.
Ouais.
Parce qu'on peut, enfin je veux dire, l'échec c'est, alors déjà l'échec, bon, tant qu'on n'a pas arrêté d'essayer, c'est pas un échec, mais la honte ou l'humiliation, c'est pas agréable. Moi je me souhaite pas d'avoir honte ou de me sentir humiliée, c'est pas agréable, mais personne n'est jamais mort, enfin quand on dit mort de honte, c'est une expression,
mort de honte. Il faudrait déjà qu'on change notre vocable,
ouais,
tu vois.
C'est ça, et à l'origine de l'origine, bien sûr, la honte c'était grave, parce que la honte ça veut dire qu'il y a un problème avec moi, et donc je peux être rejetée de la tribu, jetée en dehors de la caverne, et je vais mourir, parce que dehors il y a des tigres et des mammouths, donc
là il avait le droit.
Voilà, mais dans notre société, avoir honte, voilà, être à une réunion, dire quelque chose et que les gens rient, bah, c'est pas agréable. C'est pas agréable parce qu'on va se dire, ils trouvent que je suis bête et donc on va avoir honte et donc c'est pas agréable.
Mais surtout, comme tu dis, parce que j'ai l'impression
que
tout est une question de comportement et de collectif. C'est parce qu'on nous a inculqué que si jamais les gens riaient, on devait, entre guillemets, se sentir mal. Mais en soi, moi je pense que ce qui libère le plus, c'est vraiment de s'en foutre du rien des autres. Ça paraît facile à dire, mais je pense que c'est aussi facile à faire, en fait. Si jamais on se dit juste « je m'en fous ». Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'applique depuis quelques temps, tu vois. Je me dis « mais au pire, tu vois, au pire, on me regarde, oui. Au pire, oui, on me juge ». Mais en fait, je pense qu'on arrête d'avoir peur du jugement le jour où on arrête, nous, de juger. Enfin, en tout cas,
alors,
c'est ce qui m'arrive.
Le jour où on arrête de juger les autres et le jour où on arrête de se juger nous-mêmes. Parce qu'en fait... Finalement, ce qui est le plus pénible quand quelqu'un... imaginons par exemple la situation, on est en réunion, je suis en réunion, je pense dire quelque chose, j'ai une idée, je propose mon idée, et tout le monde dit, bah non, c'est nul, ça marchera pas, ou même les gens rient, ou voilà. Ce qui me cause de la honte ou de l'humiliation, c'est parce que je me dis, en fait, ils ont raison, je suis nulle. Parce que si je me dis, mais non, mais mon idée... Enfin, ils comprennent rien. Mon idée, elle est géniale et je vais aller la proposer au concurrent.
Ouais.
Je ressens quelque chose de tout à fait différent. C'est pas forcément agréable,
ouais.
Mais je ressens pas la honte ou l'humiliation.
Ouais.
Donc, en fait,
on est plus vexé, en fait.
Ou même pas, si je me dis, mais c'est que des imbéciles et tant pis pour eux s'ils comprennent pas mon idée géniale et révolutionnaire. On se dit, bon bah, tant pis. Enfin, je veux dire, c'est pas grave.
Ouais.
Donc en fait, le jugement des autres ne nous fait mal que quand on pense qu'ils ont raison.
Ouais.
Et donc, on peut s'en foutre du regard des autres qu'une fois qu'on a vraiment bien solidifié notre opinion de nous-mêmes.
C'est vrai.
Et qu'on se dit, bah, moi, je pense que dans cette situation, j'ai fait du mieux que je pouvais. C'était peut-être pas parfait, mais j'ai fait du mieux que je pouvais. Donc, les gens peuvent trouver que c'était nul. Bah, voilà, le jour où eux, ils seront confrontés à la même situation, ils feront du mieux qu'ils pourront. Moi,
c'est
j'ai
ça,
fait
on
du
pourra
mieux
pas
que
les blâmer,
je pouvais,
quoi.
Voilà. Et les gens, ils trouvent que c'est bête. Moi, je trouvais, au moment où j'ai ouvert la bouche, je trouvais que c'était malin. Finalement, maintenant qu'ils me le disent, bah, c'est vrai qu'en fait, je suis d'accord avec eux, ça marchera pas et c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave, ça me remet pas en question en tant qu'humain, en tant que personne. Ça veut pas dire qu'on va me rejeter de la caverne, ça veut pas dire que je vais mourir toute seule dans un coin.
Manger par les tigres.
Voilà, c'est ça, manger par les tigres. Mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire que... Donc c'est vraiment cette idée, à la fois, quand on revient à l'idée de l'éducation des enfants, l'éducation sur le mécanisme des émotions, qu'est-ce qu'elles nous disent, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on vit sa vie émotionnelle, ça on nous l'apprend pas du tout. Et par ailleurs, comment est-ce qu'on fait pour progressivement, en grandissant, internaliser notre jugement de nous-mêmes. Parce que quand on grandit en essayant de faire plaisir à nos parents, faire plaisir à la maîtresse, se conformer aux autres qui sont du groupe du même
dans
âge. Et donc,
en fait,
on passe son temps à essayer de se définir en fonction de ce qu'on perçoit du jugement des autres. Et c'est juste qu'en tant qu'adulte, si on continue à faire ça... c'est la recette du désastre, parce qu'il y a autant d'opinions que de personnes. Et donc l'idée, c'est de se dire, bon bah, les gens vont avoir des opinions, ils ont le droit, et ils vont me juger sans arrêt, il n'y a aucun problème. Par contre, qu'est-ce que moi je pense? Qu'est-ce que je me propose de faire? Qui je me propose d'être? Et tous les jours, me dire, bah, aujourd'hui, je vais continuer à essayer d'être cette personne que j'ai envie d'être, pour faire les choses que je trouve qui sont justes, qui sont bonnes, qui sont en alignement avec moi, Et les autres, ils vont avoir des opinions, ça, il n'y a aucun...
On peut pas l'éviter.
Là-dessus. Non, mais c'est ça, et c'est pas gênant. Réorganiser ma vie. Et donc, si on n'arrive pas à faire autrement, on fait comme ça. Mais c'est juste s'ouvrir à la possibilité que peut-être la semaine prochaine, dans 2 mois, je pourrais me dire, bah, je vais m'en sortir.
Non, mais ça, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est un choix, en tout cas, vraiment de choisir l'après, tu vois.
Oui.
De se dire, de ne pas se complaire, en fait,
voilà.
dans
mais ça n'est
le malheur.
Pour culpabiliser les personnes qui restent tristes pendant très longtemps, qui ne s'en remettent pas, qui... Voilà, c'est pas... je veux dire, chacun son cheminement et il n'y a aucun jugement moral sur... Encore une fois, les émotions négatives, ce n'est pas un problème en soi. C'est plus que pour les gens qui vivent des situations qu'elles perçoivent comme étant intrinsèquement difficiles, c'est juste l'idée de dire, bah, pour l'instant, effectivement, vous êtes dans une période où toutes les pensées que vous avez sur la situation génèrent en vous des émotions négatives. Donc, ça ne va pas. Mais ouvrez-vous à la possibilité que demain, après-demain, le mois prochain, peut-être, vous pourrez essayer de voir une pensée un tout petit peu plus philosophe, un tout petit peu plus qui vous remette aux commandes de la situation, si vous le voulez. Si vous ne le voulez pas, moi, je n'ai aucun problème avec
c'est
ça.
Vrai.
Et je condamnerai personne de rester malheureux pendant longtemps. Enfin, mais c'est cette idée que les émotions négatives, c'est nous qui les ressentons en premier lieu. Et donc, je trouve ça libérateur de se dire, bah, si au bout d'un moment, j'ai envie de voir les choses autrement pour me sentir un peu différemment, me remettre dans l'action, rebâtir les choses et tout ça, bah, c'est
possible.
C'est possible. C'est possible, il y a des outils et ça se fait.
Justement, en parlant d'outils, il y a un exercice que tu conseilles sur le podcast qui est celui du flot de pensée.
Oui.
Et donc, le matin, tu écris ton flot de pensée sur le papier avant de te mettre au travail. Et tu dis que cet exercice, rien que le fait d'observer ces pensées, va permettre de les changer en mieux. Et après, je me suis dit, c'est vrai qu'à mon avis, c'est un outil qui peut mettre vraiment... qui nous permet, à mon avis, vraiment de commencer la journée du bon pied. Mais je me suis dit, si jamais on a beaucoup de pensées négatives, par exemple, en cette période-là, je pense que ça va juste me faire ressaser. Et du coup, quand j'ai des pensées négatives ou quand je vis des épisodes négatifs dans ma vie, la seule chose qui marche, pour moi, c'est d'agir pour essayer de les changer et de rétablir une situation positive. Donc, je me suis demandé, en fait, si pour toi, le flot de pensée, c'était bénéfique dans tous les cas. Et qu'est-ce que tu pensais, justement, de ce phénomène un peu de ressasement ?
Alors, en fait, l'idée du flot de pensée, c'est vraiment de coucher sur le papier ce qui est déjà présent dans ton esprit. Donc, l'idée n'est pas d'écrire... Je veux dire, si tu as une pensée négative, l'idée n'est pas de l'écrire 20 fois.
Ouais.
En fait, c'est vraiment l'idée de poser sur le papier cette pensée négative, de prendre conscience que cette phrase que tu appelles négative, mais moi, il n'y a pas forcément... Enfin, moi, je n'ai pas forcément de jugement positif ou négatif sur une pensée.
Ouais.
La question n'est pas de savoir si une pensée est positive ou si elle est négative. La question, c'est de savoir, cette pensée-là, quand je la pense, comment est-ce que je me sens ? Et quand je me sens comme ça, comment est-ce que j'agis ? Parce qu'une pensée en soi, ce n'est pas une question de savoir si elle est vraie, si elle n'est pas vraie, si elle est positive, si elle est négative, si elle est réaliste, si elle est défaitiste. C'est juste, est-ce qu'elle m'est utile ? C'est-à-dire, est-ce que par rapport à la vie que j'ai envie de créer pour moi, à la journée que j'ai envie de mener, est-ce que si je porte mon attention sur cette pensée, est-ce que si cette pensée, je la tiens pour vraie, je m'y attache, je m'y accroche, est-ce qu'elle génère pour moi des émotions qui vont me faire partir dans ma journée sur le bon pied ? Oui ou non. Si oui, il n'y a aucun problème, on la garde. Sinon, eh ben, je vais essayer de comprendre cette pensée-là. Je vais essayer de bien comprendre ce que cette pensée-là crée pour moi. C'est-à-dire comment est-ce que je me sens et comment est-ce que j'agis quand je décide d'accorder du crédit à cette pensée qui n'est qu'une phrase dans ma tête.
C'est vrai qu'en fait, ça permet de se rendre compte, à mon avis, quelle pensée nous bloque, en fait. Peut-être, tu vois, si jamais, je sais pas, on doit passer un examen et que du coup on fait l'exercice du flot de pensée et qu'on se travaille tous les jours et qu'on se rend compte qu'on pense beaucoup à « je vais échouer cet examen, je vais jamais réussir », on peut peut-être se rendre compte qu'en fait, cette pensée ne nous aide pas du tout, au contraire.
Ouais, c'est ça.
Enfin, en tout cas, c'est l'exemple auquel je pense, mais je sais pas si toi, tu l'as déjà expérimenté dans ta vie.
Oui, tout à fait. Alors, bah, c'est typiquement des pensées d'inquiétude, par exemple, de se dire « s'il se passe tel truc, ça va être terrible », et de se dire « non mais là, tout de suite... » Si j'ai cette pensée d'inquiétude, elle ne m'est utile que pour attirer mon attention sur un problème potentiel dans le futur. Soit il y a quelque chose que je peux faire pour m'en prémunir et à ce moment-là, je le fais et voilà, on croise les doigts. Soit c'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle et à ce moment-là, bah, je ne vais pas passer mon temps à penser à quelque chose qui est en dehors de mon contrôle. Donc, sur quoi est-ce que je peux porter mon attention pour me remettre aux commandes, en fait, c'est toujours cette idée de se remettre aux commandes, de se remettre dans l'action. Mais ce que tu me disais qui était que quand tu as des pensées que tu juges comme négatives et que pour toi, ce qui est utile, c'est de te mettre dans l'action.
Ouais.
En fait, la raison pour laquelle ça marche, c'est que tu te mets dans l'action, par exemple, tu vas faire du sport et en ayant fait du sport, tu as accès un accès facile à d'autres pensées qui sont je me sens bien, c'est super ce que je fais, j'ai une bonne hygiène de vie, et c'est ces pensées-là qui font que tu te sens mieux.
Ouais. Moi, c'est généralement, en fait, je pensais surtout à des cas où je n'ai pas trop le contrôle, justement. Et tu vois, ça va être... imaginons, je vais être malade, tu vois, ça va m'énerver vachement, ou je vais m'être blessée, et je ne pourrai pas, entre guillemets, aller bien tant que je n'aurais pas résolu le problème. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'était un peu une réflexion en fait qui rejoint celle-ci sur, pour toi, un peu le rôle des pensées vs le rôle des actions, parce que j'ai quand même l'impression que dans ta philosophie, les pensées jouent beaucoup. Et tu vois, bah, dans ce cas précis-là, moi, les pensées, ça ne changera rien. Si je me dis, ça va aller mieux, ne t'inquiète pas, ça ne durera pas longtemps. Moi, j'ai l'impression que j'ai besoin de résoudre le problème très vite, revenir à une situation positive, et là, c'est bon, j'arrive à aller mieux.
C'est parce que tu penses que c'est le fait d'être malade ou pas malade ou de t'être blessé ou pas blessé qui régit directement tes émotions. Mais c'est juste parce que quand tu es blessé, je sais pas à quelle blessure tu fais référence, tu as une pensée qui est, par exemple, qu'est-ce que tu penses quand t'es de quelle blessure on parle ?
Alors je parlais pas d'une blessure récente, mais imaginons, oui, je me suis foulé la cheville et du coup je peux pas aller faire du sport. Ça va m'embêter, je vais le ressaser et si tu veux, je vais regarder sur internet comment accélérer la guérison d'une cheville, comment, enfin tu vois, les outils, peut-être les bandes qui vont permettre en fait de pouvoir y aller, enfin tu vois, et c'est vraiment un peu cette volonté de résoudre le problème plutôt que d'y penser.
Mais c'est parce que la pensée que tu as au sujet de, par exemple, la cheville foulée, c'est il faut que je trouve une solution. Et donc, quand tu te dis « il faut que je trouve une solution », ton émotion, c'est de la détermination, de la motivation qui te conduit à chercher des solutions sur Internet, tu vois. Mais c'est pas la cheville qui te pousse à l'action. Parce qu'il y a d'autres personnes, la même cheville foulée, qui pourraient se dire « mais c'est affreux, je peux plus rien faire », qui seraient du coup abattues et qui du coup passeraient la journée à regarder des trucs sur Netflix ou à se plaindre ou à appeler leurs amis pour leur dire « qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis à la maison, je fais rien, je me suis foulé la cheville ».
Parce que c'est ces émotions qui vont leur permettre peut-être de sentir mieux.
En fait, tout ce qu'on fait, c'est, c'est en réponse ou en réaction à une émotion.
Mm-hmm. Non, t'as raison, hein, maintenant que tu l'expliques, en fait, ça doit être ça, c'est je recherche du coup une autre émotion qui me permettra de me ressentir en contrôle.
Je veux résoudre ce problème, et donc t'es motivée,
Et je re-ressens quelque chose de positif. C'est vrai. J'ai relevé une phrase aussi, je crois, dans une des interviews que tu donnais, « Je n'accorde mon intention et mon énergie qu'aux usages et aux gens qui m'apportent des bonnes choses ». Et je pense que c'est un objectif vers lequel beaucoup de nos auditeurs souhaiteraient tendre aussi. Si jamais tu devais leur donner un conseil principal ou un conseil pratique pour y arriver, ce serait quoi ?
Alors, en fait, c'est vraiment cette idée à laquelle je reviens souvent et qui est tout à fait le fil conducteur derrière ce truc que j'ai dit dans cette interview. C'est l'idée que nos pensées créent notre réalité et que toute l'énergie qu'on déploie à s'intéresser aux trucs qui nous énervent, aux trucs qui marchent pas, aux trucs qui nous plaisent pas, aux trucs que les gens ont dit où on trouve que vraiment ils devraient pas dire ça, à toutes les choses que les gens autour de nous font, qu'on trouve que c'est une indignation, tout ça. Toute cette énergie-là, elle fait qu'on se sent pas bien, parce qu'on se sent indigné, on se sent frustré, on se sent sans pouvoir, on se sent en colère, etc. Et en fait, toute cette énergie-là, c'est autant d'énergie en moins qu'on ne dépense pas à aimer les gens qu'on a envie d'aimer, créer des choses qu'on a envie de voir exister dans le monde, à lire un livre qu'on aime. Et donc, en fait, c'est vraiment cette idée que la plupart des gens ont l'impression que la vie leur arrive, qu'il y a des choses qui se présentent à eux et que ils sont bien obligés d'avoir une opinion et que parfois c'est une opinion positive et parfois c'est une opinion négative. Et en fait, moi, ce que j'ai constaté pour moi, et ce que je propose à d'autres si ça leur plaît aussi, c'est qu'il y a une infinité de choses sur lesquelles je peux porter mon attention, et que donc j'aime autant, moi, personnellement, porter mon attention sur les choses qui me plaisent, les choses qui m'apportent des choses, les choses qui m'intéressent, choses qui m'inspirent.
On en revient à l'idée de choix, en fait.
Ouais, c'est
de
ça.
Se rendre compte qu'on est in charge, j'ai un peu envie de dire.
Et que, en tout cas, je n'en fais pas une généralité, mais j'ai l'intuition que moi, personnellement, la valeur que je crée dans le monde, elle n'est pas à me plaindre ou à critiquer les choses qui ne me plaisent pas, mais plutôt à essayer de proposer, d'attirer l'attention, de cultiver et de proposer des choses que moi, je trouve utiles et agréables. et d'essayer de faire autant de place que possible pour ces choses-là dans le monde. Et en fait, c'est cette idée de combattre la guerre par la guerre ou la négativité par la négativité. Moi, c'est pas ça mon mode de fonctionnement. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, je préfère me dire qu'est-ce que je peux créer moi, qu'est-ce que je peux proposer moi qui me plaise plus que cette autre chose qui ne me plaît pas.
Ouais. C'est une belle perspective, je pense. Et j'ai une dernière question pour toi. Cela signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie?
Alors, c'est vraiment cette idée de vraiment, vraiment bien comprendre que le monde est ce qu'il est et que notre zone de pouvoir, elle est vraiment dans ce sur quoi on porte notre attention, dans les pensées qu'on choisit d'avoir et de cultiver pour pouvoir se sentir comme on a envie de se sentir, pour agir comme on a envie d'agir.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Clotilde.
Merci,
et
Louise.
Pour toutes les personnes qui souhaitent arriver à ce but, je les redirige vers ton podcast Change ma vie.
Merci.
Pour ceux qui sont aussi intéressés par la cuisine, donc ton blog Chocolate et Zucchini, je mettrai le lien dans les notes du podcast. Est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger les auditeurs pour en savoir plus sur toi?
Je suis sur Instagram. L'identifiant du podcast, c'est Oui Change ma vie, en
okay.
un seul mot.
Ok, je le mettrai aussi dans les notes du podcast. Merci beaucoup à toi, Clotilde.
Merci,
à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Merci de s'être joint à nous dans cet échange avec Clotilde, qui j'espère vous aura appris tout autant de choses qu'elle l'a fait pour moi. Pour ne pas manquer le prochain épisode d'InPower, vous pouvez vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. C'est ce qui soutient le plus le podcast. Un grand merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour le nouvel épisode d'InPower.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.